Il est midi et demi et c'est l'heure maintenant de votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour dérouler l'actualité de ce vendredi 14 août.
On a dû annuler deux nuits d'hôtel, annuler notre avion qui était prévu dimanche. Cette quarantaine, je pense que c'est une mesure complètement inutile.
160 000 touristes britanniques pourraient bien être obligés d'écourter leur voyage en France. Le Royaume-Uni décide d'imposer une quatorzaine pour les voyageurs qui arrivent de France. Paris dit regretter cette décision et envisage une mesure de réciprocité. Dans ce journal, l'aide matérielle militaire française arrive actuellement à Beyrouth.
Un des enjeux fondamentaux aussi du déploiement de ce contingent militaire français, c'est d'apporter une capacité de génie militaire au profit des Libanais à Beyrouth et dans la région.
L'aide matérielle militaire française arrive donc dans le pays. Florence Parly, la ministre des Armées, supervise actuellement les opérations de déchargement dans le port de la capitale libanaise. À suivre, le changement climatique qui engendre des vendanges de plus en plus précoces. Nous sommes en Bourgogne. Et puis, victime collatérale de la canicule, les réfrigérateurs.
Et lorsqu'il commence à faire chaud, vous commencez à charger anormalement votre réfrigérateur. Et surtout, avoir une fréquence élevée d'ouverture de fermeture.
Beaucoup n'y ont pas survécu. Les ventes ont doublé chez certaines grandes enseignes de l'électroménager. Enfin, le football, ce sera Paris Saint-Germain, Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions. Et les supporters allemands sont ravis. Ils sont convaincus que leurs joueurs ne feront qu'une bouchée de l'équipe parisienne. Enfin, la météo, Marlène Duret. On va vers du mieux cet après-midi.
Oui, le temps s'assèche, les éclaircies s'élargissent. Beaucoup de soleil dans les régions méridionales. En revanche, au nord de la Loire, là, le temps va rester instable. Les températures, elles baissent même dans le nord-est et elles sont de saison.
Merci Marlène. On vous retrouve un peu avant le journal de 13h qui sera présenté par Yasmina Katou. Voilà pour le sommaire. Place à l'actualité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette nouvelle alerte donc sur le front de l'épidémie de coronavirus avec une dégradation de la situation, une accentuation de la transmission du virus pointée hier par Santé publique France. Près de 2700 cas ont été détectés dans le pays dans les dernières 24 heures. Paris et les Bouches-du-Rhône sont désormais placés en zone active de circulation du virus. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Lionel.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les autorités peuvent prendre des mesures plus contraignantes?
Alors d'abord, on le sait et on vous le répète, depuis plusieurs mois, le Covid-19 est l'un des virus des grandes villes, donc il n'y a finalement pas de surprise à voir les deux plus grandes agglomérations françaises placées en zone active de circulation du coronavirus. Dans ces deux zones, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées pour 100 000 habitants, a dépassé les 50. Le classement en zone active du virus permet au préfet d'avoir effectivement les mains libres pour prendre beaucoup plus de mesures contraignantes. Par exemple, le préfet peut interdire la circulation des personnes et des véhicules. On peut donc tout à fait se retrouver dans les prochaines semaines avec de nouveau l'interdiction de déplacement au-delà d'un rayon de 100 km du lieu de votre résidence ou même l'interdiction de sortir carrément du département. Le préfet peut également ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion. On pense aux bars, aux restaurants, aux centres commerciaux, aux musées et même aux marchés. Enfin, les autorités préfectorales peuvent choisir de limiter le nombre de personnes présentes à des rassemblements.
Merci Victor Delande. Alors coïncidence ou non, alors que ces indicateurs donc inquiètent sur le front de l'épidémie en France, la Grande-Bretagne annonce que tous les voyageurs arrivant de France devront à partir de demain respecter une quarantaine, en fait une quatorzaine dans le pays. Une mesure qui pourrait provoquer le retour massif de quelques 160 000 touristes britanniques actuellement en France ou des Français vivant au Royaume-Uni. Caroline Baudry, vous êtes depuis ce matin à la gare du Nord à Paris. Est-ce que c'est un phénomène que l'on constate déjà à l'embarquement des Eurostars?
Oui, ici les gens se pressent devant l'entrée de l'Eurostar comme Simon. Il visitait Paris pour la première fois. Il a écourté son séjour en catastrophe pour éviter la quatorzaine.
Ce matin, quand j'ai regardé Internet sur mon téléphone, j'ai vu que les mesures avaient changé. C'est tellement décevant. On a dû annuler deux nuits d'hôtel, annuler notre avion qui était prévu dimanche. Cette quarantaine, je pense que c'est une mesure complètement inutile.
Une quatorzaine qui devrait bientôt s'appliquer en France pour les voyageurs en provenance d'Angleterre. C'est ce qu'a annoncé hier soir Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Mais pour Caroline, pas question d'annuler son départ. Ses enfants vivent à Londres et elle va les voir régulièrement.
Effectivement, ça va chambouler pas mal. Si je dois rester 15 jours au retour en quarantaine, bah, je resterai. Et voilà. Je trouve ça tout à fait normal de poser ce genre de conditions. L'amour des enfants est plus fort. que la quarantaine.
Ces enfants font partie des 500 000 Français vivant au Royaume-Uni, où l'épidémie a déjà fait plus de 41 000 victimes.
Caroline Baudry, Gare du Nord à Paris. J'ajoute que Eurotunnel annonce ce matin que tous les shuttles, toutes les navettes du tunnel sous la Manche sont entièrement réservées. Jusqu'à demain matin, il n'y a plus aucun billet disponible en vente. Le gouvernement entame aujourd'hui les premières consultations avec les partenaires sociaux pour l'extension du port du masque en entreprise. Demain, plusieurs villes élargiront également cette obligation dans des secteurs très fréquentés ou touristiques, notamment Bordeaux, on en parlait avant-hier. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
La bonne nouvelle dans ce contexte pour les ménages, c'est que le prix des masques sera moins cher dans les grandes surfaces à la rentrée.
Oui, alors vous pouvez même déjà en trouver moins cher dans certaines grandes surfaces, mais à la rentrée, en effet, vous pourriez avoir des campagnes de communication, même à côté des promos sur les cartables ou les tubes de colle. Auchan, par exemple, prépare une communication sur le prix par usage des masques lavables, forcément plus rentables. Intermarché et Netto promettent des promotions sur les boîtes de 50 masques jetables. En fait, les masques ont toujours été vendus quasiment à prix coûtant en grande surface, sauf qu'en pleine pénurie. Ils ont souvent été achetés très cher, en Asie notamment. Non pas au cul du camion, mais au cul de l'avion, me confiait un professionnel. Et l'avion, eh bien, ça coûte plus cher que le camion ou le bateau. Ouais. Aujourd'hui, les filières d'approvisionnement sont beaucoup mieux rodées et permettent donc de proposer des prix plus raisonnables, selon le porte-parole de Franprix, François Alarcon.
Ce qui s'est passé très concrètement sur le prix des masques, c'est qu'il y a eu une énorme inflation à la fin du confinement et au déconfinement, due à la forte demande d'un coup. Et ce qui fait que les enseignes ont acheté, et là je pense que je peux le dire, toutes les enseignes ont acheté des masques à un prix beaucoup plus élevé qu'ils ne l'est habituellement. Aujourd'hui, les prix d'achat des masques baissent, ce qui permet de les vendre moins cher.
Alors il pourrait même y avoir ponctuellement de fortes promotions sur des lots spécifiques négociés par les marques, alors que la production est aujourd'hui beaucoup plus abondante.
Merci Carole Ferry. Une cinquantaine de gendarmes basés à Tarbes ont été testés positifs au coronavirus. Ils revenaient d'une mission en Polynésie. L'un d'entre eux a dû être hospitalisé. Et puis, en plein cœur de l'été, c'est une véritable institution de Saint-Tropez qui se retrouve victime du Covid-19. L'emblématique Café Sénéquier sur le Vieux-Port doit baisser le rideau temporairement après que deux cas de Covid ont été diagnostiqués chez deux saisonniers membres du personnel. Écoutez, Thierry Bourdoncle, le patron de Sénéquier, il répondait ce matin à Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le choix a été rapide entre la santé de mes collaborateurs et celle de mes clients. Le choix était très rapide.
Deux de vos employés ont donc été testés positifs. Vous avez fait tester toutes vos équipes. Ça veut dire qu'il peut y avoir encore d'autres cas ?
Effectivement, nous avons fait tester hier tous nos effectifs. En attendant les résultats, j'ai préféré, pour la santé de l'équipe et de mes clients, ne prendre évidemment aucun risque par rapport, je veux dire, à l'établissement. Et voilà.
Même si les autres sont négatifs, vous ne rouvrirez pas avec
même
eux ?
Même si effectivement les tests sont tous négatifs, fermeront au minimum une semaine. Comme apparemment ça dure entre 5 et 7 jours l'incubation, on nous a demandé éventuellement, s'il n'y avait pas de cas, de refaire par précaution un autre test dans 5-6 jours pour être sûr qu'à la réouverture, aucun des membres du personnel soit affecté par le Covid.
Thierry Bourg, donc, le propriétaire du Café Sénéquier à Saint-Tropez ce matin sur Europe 1.
Il est 12h37.
Europe 1.
On marque une première pause à suivre l'hommage national qui se tiendra cet après-midi à Orly à l'occasion du rapatriement des dépouilles des 6 jeunes humanitaires français tombés dans une embuscade terroriste au Niger dimanche dernier. Nous serons à Beyrouth également pour le début de la distribution de l'aide française à la population après l'explosion qui a ravagé la capitale libanaise. Et puis nous vous parlerons de cette guerre sans merci que se livrent Apple et le jeu vidéo Fortnite. C'est presque aussi violent qu'un jeu de stratégie.
La suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
16h cet après-midi, aéroport d'Orly, cérémonie d'hommage aux humanitaires français tués dans une attaque terroriste au Niger et dont les corps sont rapatriés en France. C'est Jean Castex, le Premier ministre, qui présidera cet hommage national en présence des familles et des proches. Hommage national, Claudia Bertram, mais qui se déroulera malgré tout dans une certaine intimité.
Oui, cela va se dérouler en petit comité au pavillon d'honneur de l'aéroport, avec les familles des victimes et des représentants d'ACTED. Jean Castex a tenu à présider cet hommage lui-même, alors qu'habituellement c'est au ministre des Affaires étrangères que cela incombe. Jean-Baptiste Lemoyne sera également sur place pour représenter le Quai d'Orsay, ainsi que le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. À la demande des proches des victimes, la cérémonie n'est pas ouverte à la presse, mais quelques séquences seront retransmises à la télévision, notamment le discours du Premier ministre. Les familles des 6 humanitaires français et les représentants de l'ONG s'exprimeront en premier avant que Jean Castex ne prenne la parole devant les cercueils des 6 Français rapatriés ce matin. Un discours pour rendre hommage à l'engagement de ces jeunes, mais aussi, précise Matignon, pour parler du contexte qui a conduit à ce type d'acte barbare. Le Premier ministre reviendra aussi sur l'engagement militaire de la France sur place avant qu'une minute de silence soit observée.
Merci Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Depuis ce matin, l'aide française au Liban débarque dans le port de Beyrouth. Opération supervisée par la ministre des Armées, Florence Parly, présente sur place depuis hier. La ministre des Armées qui a assuré que cette aide bénéficierait effectivement directement à la population libanaise. Des tonnes de matériel, donc de médicaments, d'aides alimentaires et de matériaux de construction sont actuellement déchargés. Depuis le porte-hélicoptère Tonnerre, Nicolas Feldman, vous êtes sur place.
Oui, et le voici accosté au port de Beyrouth, ce porte-hélicoptère Tonnerre imposant 200 mètres de long, 30 mètres de haut, à quel les militaires déchargent en ce moment les 1000 tonnes de fret mises à disposition des Libanais. De l'aide humanitaire et médicale d'abord, 75 000 rations de combat pour l'armée libanaise, plus d'une centaine de tonnes de farine et de blé pour la population, des matériaux de construction ensuite, du plâtre, du verre, de l'aluminium. Tout cela commence à manquer dans les rues, dans les soutes du porte-hélicoptère aussi, des tractopelles, des pelleteuses, des bennes, autant d'engins nécessaires pour déblayer les décombres. Le capitaine Étienne, l'un des porte-parole de la marine.
Un des enjeux fondamentaux aussi du déploiement de ce contingent militaire français, c'est d'apporter une capacité de génie militaire, que ce soit dans le domaine maritime, terrestre, portuaire, sous-marin, pour pouvoir aider aux travaux de déblaiement et de reconquête des infrastructures portuaires, mais plus largement au profit des Libanais à Beyrouth et dans la région.
Et l'objectif des militaires, hein, tout décharger aujourd'hui pour pouvoir dès demain distribuer l'aide à la population.
Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth, au Liban. La France salue la décision d'Israël de suspendre l'annexion des territoires palestiniens. Étape positive qui doit devenir une mesure définitive, déclare Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. L'accord de normalisation entre Israël et les Émirats pourrait être signé d'ici 3 semaines, selon Donald Trump cette fois. Un jeune homme de 21 ans tué d'un coup de couteau hier soir dans le quartier de la gare de Marseille. Pour l'instant, les circonstances et les motifs de cette agression restent plutôt flous. La victime est décédée sur place, les secours n'ont rien pu faire. À Lille, c'est un homme de 56 ans qui, lui, est entre la vie et la mort depuis hier soir. Lui aussi poignardé dans le quartier de la gare parce qu'il aurait refusé de donner une cigarette à un groupe de jeunes, Maximilien Carlier.
Oui, effectivement, c'est ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête. Cela s'est passé vers 23h30, parc Matisse, en face de l'île Europe. Un quinquagénaire est abordé par plusieurs personnes, il lui aurait demandé une cigarette, il aurait refusé. S'en est suivi une altercation, plusieurs coups de couteau. La victime est transportée dans un état grave au CHR. 5 personnes interpellées, dont 3 jeunes femmes qui avaient sur elles des couteaux. Une agression qui intervient 2 mois après le meurtre d'un trentenaire. Frédéric, un commerçant du quartier, est excédé.
C'est devenu un no man's land, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi, excepté celle des dealers, celle de la mendicité. Voilà. Un touriste sort de la gare, il se dit « mais je suis où ?» Voilà. Et je trouve que c'est dramatique pour l'image de la ville de Lille. Il faut que les forces de police soient permanentes.
Et d'ici la fin de l'année, il y aura 60 fonctionnaires supplémentaires dans la capitale des Flandres. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Plus installation de caméras pour lutter contre les trafics de stupéfiants.
Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. C'est une guerre sans merci que viennent de se déclarer 2 géants du monde de la tech. Une guerre aux enjeux considérables puisqu'elle concerne les 250 millions de personnes accros aux jeux vidéo Fortnite. Apple vient de bannir de l'App Store, c'est-à-dire son magasin d'applications en ligne, le célèbre jeu vidéo impossible de le télécharger, y compris en France. La raison, Clément Le Saffre, eh bien, c'est une violation des règles instaurées par Apple et donc c'est le début d'un vrai bras de fer.
C'est Fortnite qui a allumé la première mèche. L'éditeur du jeu, Epic Games, part en croisade contre le monopole d'Apple sur le marché des applications pour iPhone. Sur l'App Store, la règle est simple. Pour tout paiement effectué au sein d'une appli, Apple prélève une commission de 30%. Pas du tout du goût d'Epic Games, qui a donc envoyé un défi au géant américain. Il a proposé dans Fortnite un bonus payant pour l'obtenir. Les joueurs avaient le choix, $10 en passant par Apple ou 8 en contournant le système en place. Ni une ni deux, Apple a banni l'application Fortnite de l'App Store dans le monde entier. Impossible de la télécharger et elle a même disparu des téléphones de ceux qui l'avaient installée. Sauf que voilà, Epic Games avait prévu le coup. Dans la minute qui a suivi le bannissement, l'éditeur a porté plainte contre Apple et il entend bien mettre fin à ce qu'il qualifie de pratique anticoncurrentielle. Cerise sur le gâteau, Fortnite a diffusé un message sur les réseaux sociaux, une vidéo qui imite la célèbre pub 1984 d'Apple. À l'époque, la marque à la pomme voulait vendre l'aspect révolutionnaire de son Mac face au vieux monde d'IBM. Retournement de situation, aujourd'hui, c'est Fortnite qui essaye de renverser Apple. Et en quelques minutes seulement, le hashtag FreeFortnite fleurissait sur la toile.
Merci Clément Le Saffre, spécialiste des nouvelles technologies à Europe 1.
Il est midi 46.
Europe 1. Restez avec nous. Dans un instant, nous irons en Bourgogne avec ce nouveau record de vendanges précoces. Et puis, nous vous raconterons l'histoire extraordinaire de cette petite fille née à Marseille grâce aux policiers de la BAC.
Le journal de la mi-journée sur Europe 1, la suite, Lionel Gougelot.
Benjamin Peter, notre correspondant dans la région Occitanie, nous parlait de la quelques jours des vendanges précoces qui avaient commencé fin juillet ou début août dans l'Aude et dans l'Hérault. Et mais cette semaine, c'est en Bourgogne qu'un record de précocité historique a été battu puisque les vendanges ont commencé mercredi dans le sud du vignoble. Même lors de la canicule de 2003, on n'avait jamais vu ça. À l'époque, la récolte n'avait commencé que le 17 août pour ce viticulteur que vous avez rencontré, Marion Gauthier.
On n'a jamais vu ça à la fois au domaine, bien sûr, et en Bourgogne, je pense. On se croirait dans le sud de la France et encore.
Dans l'exploitation familiale, Olivier Fichet n'en revient pas. Il se rappelle les vendanges d'octobre, il y a une vingtaine d'années. Même en 2019, le 10 septembre, pour sortir le sécateur, c'était précoce, mais pas encore assez pour 2020. En passant dans ses vignes écrasées par 38 degrés ce lundi.
Je me suis aperçu que les raisins avaient flétri. On s'est précipité lundi et mardi pour mettre en place notre matériel, et etc.
Et chaque jour compte. Sous la chaleur, les raisins perdent de leur jus. Ils se concentrent en sucre et en alcool.
Le début commence bien sur la qualité, mais ce n'est pas une chose très, très naturelle qu'on aimerait avoir tous les ans. Surtout, nous, en Bourgogne, on a des cépages comme le Pinot Noir, par exemple, qui supportent mal les grosses chaleurs, en fait. Je pense que si ça continue trop longtemps, ça va disparaître petit à petit, quoi.
Sur les hectares déjà récoltés, Olivier Fichet estime avoir perdu 40% de sa production.
Marion Gauthier, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, annonce ce matin des mesures exceptionnelles pour accompagner les agriculteurs et les éleveurs victimes de la sécheresse. Ils bénéficieront des indemnisations pour calamité, mais aussi d'aide à la trésorerie et de certains dégrèvements fiscaux. Voilà une conséquence pour le moins inattendue de la récente vague de canicule. Les enseignes d'électroménagers ont constaté une véritable explosion des ventes de réfrigérateurs. Ces ventes, elles ont été multipliées par deux chez Darty ou chez Boulanger. Non pas parce que les gens voulaient s'y réfugier pour échapper aux températures, mais parce que beaucoup d'appareils, en fait, n'ont pas résisté justement à cette canicule. Explication Élise Dangean.
Durée de vie moyenne d'un réfrigérateur, 10 ans, meilleur score de tout l'électroménager pour ce produit qui fonctionne pourtant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais quand le thermomètre grimpe, l'appareil souffre de la chaleur et de nos changements d'habitude. Dominique Gandhi est le directeur du département électroménager de Fnac Darty.
Tout le monde est confronté à ça. Dès lors qu'il commence à faire chaud, vous commencez à charger anormalement votre réfrigérateur et surtout avoir une fréquence élevée d'ouverture de fermeture. En moyenne, il faut savoir qu'on ouvre 60 fois son réfrigérateur. Quand il fait très chaud, vous pouvez monter facilement à 90-100. Donc de ce fait, vous faites monter la température dans le réfrigérateur et là, le moteur fonctionne à plein régime. Et si votre appareil est plutôt en fin de vie, plus de 10 ans, 13 ans, 14 ans, c'est là où il peut rendre l'âme parce qu'il a été plus que sollicité.
Phénomène amplifié selon Dominique Gandhi par le confinement puis par le télétravail avec une surutilisation de nos appareils électroménagers. Et attention, si vous vous pensiez tiré d'affaire, maintenant que la canicule est terminée, sachez que les orages peuvent aussi précipiter la fin de vie de votre réfrigérateur, notamment s'il subit une surcharge électrique.
C'est une histoire qui va finir par coûter cher, effectivement. L'histoire maintenant, l'histoire de ce jeune couple qui se souviendra longtemps de la naissance de sa petite fille. Un accouchement en urgence avec l'aide des policiers de la BAC. Ça se passe à Marseille et ça commence par un contrôle routier, Stéphane Frangy.
Interpellé pour excès de vitesse sur sa moto, Akram dit avoir une bonne excuse.
J'ai ma femme qui m'avait appelé en m'expliquant que l'accouchement a commencé, c'est imminent. Donc elle me dit le petit va arriver, t'es où? Comment ça se fait que t'es pas là? Tu me laisses seul? Panique est complète, je fonce en direction de la maison pour l'amener à l'hôpital.
D'abord sceptique, Cédric et Mickaël, les deux équipiers de la BAC, se rendent à l'évidence.
Il nous sort l'excuse de la femme enceinte, comme ça arrive très souvent.
Et effectivement, quand on a vu son épouse arriver, elle est descendue de chez elle, le ventre tout gonflé et qui tient pas tout à fait debout, qui se tient contre la voiture, qu'on comprend qu'il y a une urgence.
Pas une minute à perdre donc pour les coéquipiers.
coéquipier.
On prend la décision de les escorter. Le papa, moi j'ai pris le volant de sa voiture. Cédric m'a ouvert la route et le plus rapidement possible.
Et un moment de stress pour les futurs parents jusqu'à la ligne d'arrivée.
Stupéfait, je me retrouve à l'arrière, policier qui conduit ma caisse, notre policier qui lui fait la route. Ça va très vite. Ils prennent tous les risques, voies de bus, sens interdit, pour aller le plus vite possible. Il faut savoir que ma femme, elle a commencé à accoucher dans la voiture, donc on voyait la tête. Et elle criait, elle poussait. Grâce à eux, ça s'est joué vraiment une minute près. Et elle a accouché sur le brancard en rentrant dans la clinique.
Et le fin mot de cette histoire, c'est une petite Alia, 2,8 kg et le cœur déjà bien accroché. Marseille, Stéphane Frangier.
Alors la petite Alia, elle mérite d'être membre d'honneur de la police marseillaise et on était dans un vrai scénario de taxi. Hein. Allez, le football, ce sera donc Leipzig, l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Allemands ont battu l'Atlético de Madrid hier soir 2-1. Qualification surprise quand même, il faut le dire, hein, pour un club que l'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition. Un adversaire, comme on dit, tout à fait prenable pour le Paris Saint-Germain. Julien Froment, le problème c'est que les Allemands pensent exactement de la même chose du Paris Saint-Germain.
Je pense que le PSG n'a aucune chance contre Leipzig, car nous sommes la meilleure équipe d'Europe.
Pinte de bière à la main pour célébrer la qualification historique de Leipzig, une équipe créée il y a à peine 11 ans. Tobias et ses amis se sont montrés extrêmement confiants à l'idée d'affronter le Paris Saint-Germain.
Mais bien sûr qu'on va gagner. Ils n'ont pas de si bons joueurs que ça. Ça va être facile.
Leipzig va botter les fesses du PSG. L'argent ne marque pas de but.
Pour Adriano, supporter parisien, maillot de Neymar sur le dos, son club est favori, mais pour autant, rien n'est encore fait.
Bah, c'est plutôt bon pour Paris, moi je pense. Paris peut gagner 10 fois le match, mais on ne sait jamais. Non, on a trop d'expérience pour se la raconter comme ça. On arrête tout ça. Maintenant, on prend les matchs les uns après les autres. Paris n'est pas en finale, loin de là.
Le Paris Saint-Germain devrait se présenter mardi sans son gardien titulaire, Keylor Navas, blessé à la cuisse. En revanche, les retours simultanés de Kylian Mbappé et d'André Di Maria devraient donner des ailes au club de la capitale face à une équipe allemande qui va découvrir pour la première fois de son histoire le dernier carré de la Ligue des Champions. Lisbonne, Julien Froment, Europe 1.
Et puis dans ces quarts de finale, en attendant Lyon contre Manchester City demain soir, il y a une belle affiche ce soir, Barcelone contre le Bayern de Munich. Griezmann devrait être titulaire à la pointe de l'attaque du Barça. Il nous reste à voir la météo.
L'orage a beau gronder, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Bonjour Marlène Duret, rebonjour.
Oui, rebonjour Lionel.
Alors, cet après-midi, plus calme, plus sec et plus ensoleillé, c'est bien ça?
C'est cela, vous avez tout compris, grâce à une petite hausse des pressions aujourd'hui. Des pressions ? Le temps va s'améliorer par rapport à ce matin, par rapport à hier bien sûr. Si on met de côté les régions méditerranéennes, nous nous sommes réveillés en général sous un ciel assez nuageux, pour ne pas dire couvert, dans les régions les plus au nord. C'est notre petite dépression qui est en train de se combler, de disparaître si vous préférez. Mais elle va maintenir des averses cet après-midi sous un ciel qui restera chargé, laissant passer parfois quelques rayons de soleil, c'est vrai, mais avec ici ou là encore quelques coups de tonnerre. Et ça va concerner la Normandie, tout le bassin parisien, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, l'extrême nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis les éclaircies vont s'élargir au fur et à mesure que l'on ira vers le sud et l'ouest du pays. Ce sera même du très beau temps sur la côte atlantique, dans les régions du sud-ouest, le sud du Massif central, la vallée du Rhône, la Provence. Quant aux régions méditerranéennes, elles profitent du soleil depuis l'aube. Donc pas de grands changements entre le matin et l'après-midi. Et puis je vais nuancer un petit peu, je vais apporter un petit complément d'information pour les Pyrénées avec ces averses orageuses qui peuvent reprendre en cours d'après-midi. Petite averse possible également au niveau des Alpes frontalières et sur la montagne corse. Les températures, elles baissent enfin dans le nord-est et partout. Elles sont conformes aux normes saisonnières près de la Manche. 21 degrés à Cherbourg et Boulogne-sur-Mer. Nous aurons 22 à Cabourg, 23 degrés à Brest et Évreux cet après-midi. Ailleurs, comptez généralement 25 à 29 degrés. Alors 25 à Paris, à Lille, à Nevers, à Belfort, 26 degrés à Angers, à Poitiers, 27 à Mulhouse ainsi qu'à Nancy, Montluçon, Périgueux, 28 degrés à Bordeaux, Annecy, 29 à Toulouse, 30 à Montauban. C'est vrai que ça remonte un petit peu dans le sud-ouest, oui. Température du côté de la Méditerranée, comprise entre 29 et 33, 29 à Nice, 31 en Corse ou encore 33 à Marseille.
Et comment se présente ce week-end du 15 août, Marlène?
Il va bien commencer avec une journée de samedi calme, ensoleillée dans de très nombreuses régions. Le temps va rester un petit peu plus humide, variable près des frontières du Nord. Et puis instable, progressivement instable sur la façade océanique avec quelques gouttes possibles, s'accompagnant d'un petit coup de tonnerre l'après-midi. midi, de la Bretagne à la Vendée et dans le sud-ouest. Peut-être de façon plus marquée côté Pays Basque, hein, vers le Labour. Nouvelle dégradation orageuse en approche, Lionel. Un ciel chaotique et menaçant se mettra en place. Il faudra compter avec des averses et des orages quasiment partout dimanche. Le flanc est sera épargné jusqu'en soirée. Cette dégradation orageuse va s'évacuer lundi par l'est. Les pluies vont s'estomper. Et puis après, on va parler d'une pousse anticyclonique et d'une hausse des températures. Justement, les températures pour ce week-end, ça vous intéresse? Pour la journée de samedi, elles vont remonter encore. 22 à 26 près de la Manche, 26 à 31 ailleurs, 28 à Paris, jusqu'à 32, 35 encore dans le sud. Et puis dimanche, après le passage des orages, elles redescendront à nouveau, comptez une moyenne de 26 degrés au nord et de 28 au sud.
Merci Marlène Duret, c'est complet comme toujours. Bonne journée Géraldine,
à ce soir. Bonne journée à vous Lionel et à ce soir 18h.